Et bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans cette émission exceptionnelle en direct ici de l'Université Paris 8, on est à Saint-Denis, à P8. Bonjour à toutes celles et à tous ceux qui sont dans le public, soyez les bienvenus. Bonjour à vous qui nous regardez en direct sur Twitch pour cette émission exceptionnelle pour parler de vie étudiante. On va parler d'insertion professionnelle, de précarité, on va parler de tout ce qui concerne la vie étudiante dans cette émission réalisée en partenariat avec le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis, le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis qui mène actuellement une concertation jeunesse. Si vous êtes jeune, que vous habitez, que vous travaillez ou que vous étudiez en Seine-Saint-Denis, rendez-vous sur le site internet du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Vous trouverez cette concertation jeunesse. Le Conseil départemental veut connaître votre avis sur plein de trucs. Je ne vais pas rester très longtemps tout seul sur ce grand plateau, rassurez-vous. On va être rejoint par des invités exceptionnels. Bienvenue à vous qui nous rejoignez. Il y a eu un flyer qui a été distribué sur le campus de la fac. Parlons vie étudiante et emploi en live Twitch avec Jean Massier. C'est très cool. Par contre, ils se sont trompés de bâtiment. C'est pas le bâtiment B1, c'est le bâtiment C. Donc, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, qui sont au bâtiment B1, ramenez-vous bâtiment C, c'est là qu'on est. Et venez vous mettre dans le public, il reste encore de la place. Alors, j'ai pris quelques notes, on est en octobre, on est début du mois d'octobre, encore en pleine rentrée pour certains, c'est la découverte de la fac, pour d'autres, c'est le retour au rythme après les vacances, c'est le moment parfait pour discuter de comment bien vivre ses études. Quelques chiffres, la réalité c'est que la vie étudiante c'est pas facile. En France, 65% des jeunes poursuivent leurs études après le bac, mais seulement 52% quand les parents sont ouvriers et 77% quand ce sont des cadres. En Seine-Saint-Denis, c'est moins d'un jeune sur deux qui poursuit ses études dans l'enseignement supérieur. Et quand on poursuit ses études, c'est pas toujours la vie facile, le logement, le transport, la nourriture. Près de 80% des étudiants vivent avec moins de 100 euros par mois pour se nourrir. Un tiers saute des repas. Beaucoup renoncent à des soins. Certains n'ont même pas de logement stable. Et puis arrive l'autre moment difficile, celui du premier vrai emploi, souvent avec beaucoup d'excitation, mais aussi énormément de pression. Il faut trouver vite, assurer ses dépenses, sans avoir encore de vraie sécurité. Bref, la vie étudiante, c'est pas seulement les cours et les diplômes, c'est des réalités à prendre en compte. Et pour en discuter, je vais accueillir nos invités qui vont partager expériences, constats, solutions concrètes. Et vous, bien sûr, qui êtes sur Twitch, n'hésitez pas à participer dans le chat, que vous soyez étudiant ou anciens étudiants ou futurs étudiants, n'hésitez pas, on est toujours preneur de vos retours. Dans cette première discussion qu'on va consacrer à l'accès aux études supérieures et à l'emploi, j'ai le plaisir d'inviter sur ce plateau Peck, qui est étudiant. Il est où, Peck?
C'est moi.
C'est toi. Elle est où, pardon, excuse-moi, Peck.
Il,
autant pour moi, excuse-moi.
Pas de souci.
Pardon, Peck, tu es étudiant en Master 2 à P8.
Oui, c'est ça. Je suis en master de culture et communication.
J'allais te demander, tu fais culture et communication ?
Ouais, avant ça, j'étais en DUT à Infocom, à l'UT de Montreuil, donc aussi relié à Paris 8. Et après, j'ai fait une licence avant d'arriver en master.
Ok. Eh ben, bravo. Bravo d'être arrivé jusque-là. On est également avec Mélika. Mélika, bonjour.
Bonjour.
Tu es étudiante à P8, toi aussi ?
Oui, c'est ça. Je suis en troisième année de double licence histoire et sciences politiques à Paris 8.
Histoire et sciences politiques, ça se passe bien ?
Bah, pour l'instant, oui et non.
Pourquoi ?
Bah parce qu'on galère un peu à s'inscrire depuis maintenant le début. Il y a des longues queues là. Je sais pas, enfin, il y a même encore hier, avant-hier, il y a quelques jours, on voyait les longues queues qui étaient là pour pouvoir s'inscrire administrativement. Il y a encore tellement d'élèves, tellement d'étudiants qui n'ont pas pu s'inscrire. Et il y a de nombreuses reprises. On a essayé d'aller pas contacter la présidence, même Arnaud Lémé, mais malheureusement, aucune réponse. Et à côté, on peut mettre des milliers d'euros dans le festival Le Grand 8. Donc c'est vrai que c'est assez décevant.
C'est quoi le festival Le Grand 8? Je connais pas.
C'est un festival qui a lieu chaque année à Paris 8 depuis maintenant, ça va faire la 10e année. Cette année, c'était la 10e année du Grand 8.
Ok, d'accord.
Voilà. Et à côté, il y avait des longues queues d'inscription et les étudiants qui galéraient, quoi.
Ouais, donc la galère, je comprends. Ouais. On est également avec Ina Moula, qui est étudiant au CNAM de Saint-Denis et membre du Parlement des exilés.
Oui, merci beaucoup. Moi, c'est Ina Moula. Je suis ingénieur informatique en dernière année au CNAM.
Également, c'est quoi le CNAM ?
C'est le Conservatoire National d'Arts et Métiers.
Ouais.
C'est une école d'ingénieurs. Et à côté de ça, je suis membre du Parlement des exilés. C'est un nouveau dispositif qui est créé par cette association. C'est pour représenter les personnes qui sont exilées, qui sont en France, qui n'ont pas leur représentant. C'est pour défendre leurs droits, s'ils ont des besoins d'aide, s'ils ont besoin de quelqu'un pour les écouter, trouver des solutions et également parler de nouveaux projets. Donc on représente, on est 17 élus dans ce programme et on travaille ensemble sur les projets qu'on pourrait mettre en place pour les personnes en exil en France.
Trop bien. Eh ben, merci d'être avec nous, Ina Moula. On est également avec Constance. Salut, Constance.
Salut.
Tu es étudiante à Paris 8?
Non.
T'es étudiant tout ça?
Je ne suis plus.
Tu l'es plus ?
Je suis plus étudiante, je suis secrétaire générale de l'association Eloquentia Saint-Denis,
okay.
qui est située à Paris 8.
D'accord, ok. Et t'as fait quoi comme étude ?
J'ai fait un master en économie des organisations à Paris.
D'accord, ok, trop bien. Eh ben merci à tous les quatre d'être avec moi sur ce plateau pour parler de vie étudiante. Commençons par la première question que je vous pose à tous. Je vous invite à tous y répondre. C'est quoi pour vous en deux mots ce que représente l'accès aux études supérieures ? Qu'est-ce que ça vous évoque en premier ? Peck, on commence avec toi ?
Ok, bah, du coup pour moi c'est un peu une bataille contre les inégalités pour avoir un diplôme et ne pas être sûr de pouvoir avoir accès au monde professionnel après.
Donc c'est la galère ?
Oui.
L'accès aux études supérieures, c'est un moment de difficulté.
Ouais, c'est ça. Enfin, on commence pas tous avec les mêmes positions, les mêmes armes,
okay.
le même réseau, et du coup, on a des parcours différents, et des fois, il y en a qui abandonnent avant, quoi. Mm.
Mélika, c'est ce que tu t'es dit aussi après ton bac ?
Alors moi, je rejoins Peck sur ce qu'il a dit. C'est vrai que c'est, enfin moi, ça me fait directement penser aux inégalités. Et nous, enfin, il y a encore moins de deux ans, un peu plus de deux ans, je suis passée par Parcoursup. Et c'est tout simplement une plateforme horrible qui est là juste pour broyer les étudiants et les étudiantes et qui va toujours encore plus viser la sélection, encore plus discriminer. Et c'est aussi un instrument de l'État justement pour pouvoir faire cette sélection et faire un tri entre les étudiants. Et les étudiantes.
Inamoula, même constat pour toi, l'entrée dans les études supérieures ?
Je pense que nous, on est tous ici étudiants, donc on partage les mêmes problèmes qu'on a au début. Mais en fait, ça dépend, cette question on pose à qui ? C'est un étudiant ou un étudiant qui était en France, qui a fait son bac ici en France, ou c'est un étudiant qui rejoint d'un autre pays, qui ne connaît pas du tout le système français, qui ne sait pas c'est quoi Parcoursup, qui ne sait pas c'est quoi mon master, et il rentre dans un pays qu'en France, avec une différente culture. Je parle bien sûr des étudiants qui sont en exil, qui viennent des pays différents, alors que la culture elle est très différente, alors que la langue elle est très différente, mais quand même ils arrivent à s'intégrer dans la société, s'intégrer dans l'université. Ça c'est vraiment, je pense, un obstacle pour ces personnes-là. Déjà ils connaissent pas le système, comment ça marche, comment rentrer à l'université, comment faire ses voies au Parcoursup. C'était le cas pour moi-même. Moi j'ai eu la chance que je parlais le français, c'est parce que j'ai fait une licence en français langue étrangère en Afghanistan, et grâce à ce parcours j'ai pu parler le français. Et quand je suis venu en France, au moins ça m'a aidé à connaître le site, comment ça marche. Mais quand même, on voit le Parcoursup, on voit le master, et également, on est parfois, on veut devenir un médecin, mais alors que sur Parcoursup, les demandes ne sont pas acceptées, on est accepté peut-être dans une autre filière. Et c'est pour ça que dans le marché du travail, on n'arrive pas à réussir.
Constance ?
Alors moi, j'ai eu la chance de ne pas passer par Parcoursup, parce que ça n'existait pas quand j'ai commencé mes études. Mais je suis tout à fait d'accord pour dire que c'est compliqué parce que je cherche à reprendre mes études. Et en fait, on n'accepte pas assez que des étudiants puissent changer de voie. Il faut avoir un parcours tout lisse. Sinon, c'est très compliqué de réussir à convaincre. Et souvent, réussir à convaincre juste avec un CV et une lettre de motivation, c'est pas suffisant.
C'est intéressant ça. On peut pas changer de voie, on peut pas faire d'année de césure. C'est complexe, il faut le justifier. C'est une difficulté supplémentaire.
Oui, c'est une difficulté supplémentaire parce que quand on souhaite de changer de voie, bah, il faut qu'il y ait un rapport. Moi, par exemple, j'ai fait que du social quasiment et cherche à aller dans la finance. Et aujourd'hui, il y a une difficulté à comprendre le lien alors que la finance se trouve partout. Mais je ne suis pas la seule. Il y a beaucoup d'autres personnes qui sont en difficulté parce qu'on va choisir des études comme on en a envie sur le moment, mais ensuite, on n'est pas sélectionné comme on aurait aimé, et ça arrive à beaucoup de personnes qui vont choisir d'aller dans certains masters et qui, au final, par la force des choses et par la sélection de mon master, vont finir dans un truc qui a complètement rien à voir, comme une personne qui peut vouloir aller faire de la finance et va se retrouver en philo.
Ouais, je comprends. Autre question que je voudrais vous poser à tous les quatre, elle est dans la droite ligne de ce qu'on vient de dire, mais quand on sort du lycée, qu'est-ce qui fait le plus peur ? Qu'est-ce qui est le plus d'obstacles pour se lancer dans les études ? Vas-y, Constance.
Pour moi, ce qu'il y a de plus d'obstacles pour se lancer dans les études, c'est le fait d'être simplement sélectionné sur un parcours. Quand on sort du lycée, en fait, les trois quarts du temps, on n'a encore jamais fait une lettre de motivation, jamais fait un CV, et on sait qu'on va être jugé sur des expériences qu'on n'a pas encore eues.
Peck, t'en penses quoi ?
Je rejoins aussi cette idée de Parcoursup. En fait, moi, j'ai 26 ans, donc avant, la première fois, je suis rentrée par APB. Ouais. Et en fait, j'ai été sélectionnée pour des bonnes écoles, mais je les ai pas eues. Donc, j'ai passé une année sans diplôme bac plus 1. Et donc, je suis repassée par Parcoursup l'année d'après. Et l'algorithme a changé. Et j'ai été refusée des mêmes écoles qui m'avaient acceptée pour les entretiens avant. Ah. Parce que j'étais en réorientation, alors que mon dossier était meilleur. J'avais plus de projets derrière moi, plus d'expérience. Et ce côté ligne droite, c'est assez difficile. Ça, c'est à vivre. Mais au-delà de ça, j'ai vu des étudiants à côté de moi qui avaient fait des grands lycées prestigieux, qui, eux, avaient eu, par exemple, mention assez bien au bac et qui ont été acceptés dans des grandes prépas. Et d'autres camarades qui, eux, avaient fait des lycées de banlieue, qui avaient eu des meilleures mentions dans les mêmes bacs et qui n'ont pas été acceptés dans ces grandes prépas. Et enfin, le dernier point, et ça, c'est un peu le truc difficile pour moi cette année, c'est que j'accompagne ma sœur qui vient d'entrer dans les études supérieures. Elle sort du lycée d'un bac STMG. Et en fait, on aura beau dire que la voie professionnalisante, c'est la voie entre guillemets la plus facile, mais c'est aussi une voie extrêmement sélective. Donc en fait, elle a été refusée sur Parcoursup par 14 formations. Elle a 14 refus. Aucune formation qui l'a acceptée à part un CFA pour entrer en alternance. Elle n'a pas trouvé d'alternance parce qu'elle n'a pas d'expérience vu qu'elle sort du lycée. Et finalement, les seules voies possibles de dérogation, c'est les licences en fac. Et quand elle arrive en fac, bah, en fait, on lui dit bah non, vous avez fait un bac STMG, ça ne va pas être possible. Donc, et encore une fois, elle a énormément de chance parce que du coup, pour aller voir tous les gens des licences, les responsables de formation, on a été accompagnés par un syndicat qui est la FSE. Moi, je l'accompagne parce que je suis à Paris 8 et je connais les professeurs. Donc, je sais comment l'aider à remplir un dossier de dérogation, ce qu'elle ne sait pas faire seule. Parce qu'elle, elle vit avec notre grand-mère qui ne parle pas français. Elle n'a pas ses parents. Donc, en fait, il n'y a que moi qui peux l'aider. Donc, en dehors de moi, mes études, donc le master, la recherche d'emploi, etc., je commence l'année avec de la précarité financière. Et aussi le besoin d'aider ma sœur, qui n'a personne sinon pour trouver une fac. Et là, à ce niveau-là, je ne suis pas sûre qu'elle va trouver une fac, quoi. Donc elle aura une année où elle n'aura pas de fac et elle se retrouvera sans doute à être mise de côté par Parcoursup l'année prochaine encore.
Mélika Inamoula, quand on pense aux obstacles de la vie étudiante, on peut aussi parler du logement, du transport, de la précarité, de la difficulté de trouver de l'argent, tout simplement. Mélika ?
D'abord, très rapidement, pour rajouter un petit point sur ce que Paye Kati, je trouve que quelque chose qui peut faire très très peur justement quand on va, enfin après le lycée, c'est justement de se rendre compte que en fait chaque année de plus en plus, le gouvernement, en tout cas le gouvernement de Macron, va couper le budget alloué à l'éducation nationale, à l'enseignement supérieur et à la recherche, et donc qui a moins 1,5 milliard d'euros en moins, et que à côté on voit qu'il y a plus de 3,3 milliards dans l'armée. On se pose des questions, on a peur, on se dit justement est-ce que j'aurai ce que je veux sur Parcoursup, parce que une des conséquences c'est qu'il y a énormément de places qui sont supprimées et qu'on va même supprimer des filières par exemple qu'on trouve pas rentables, que l'État ne trouve pas entre guillemets rentable, pas productif, et malheureusement c'est peut-être le cas de ce qu'a vécu je pense ta petite sœur, et c'est assez violent quand on s'en rend compte que enfin c'est littéralement une violence symbolique quoi.
Inamoula,
je me permets d'abord de répondre à la première question que vous avez posée sur la question de quand on finit le bac, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on apporte de quoi. Même si on est adulte à l'âge où on a notre bac, mais on a besoin de quand même d'être conseillé dans cette démarche-là. C'est parce qu'on ne sait pas quel domaine est à jour, dans quel domaine nous on est très bien, alors que peut-être quand on est enfant, on fait des idées dans notre tête que peut-être cette filière c'est très bien pour moi, peut-être cette filière c'est très bien pour moi. Mais alors que peut-être on a des compétences qui sont de plus en plus développées dans un domaine. Donc je pense qu'à l'âge où on fait le bac, on a besoin des conseillers qui nous conseillent sur quel domaine choisir. Et il faut également, il faut qu'ils voient quelles sont nos compétences importantes qu'on peut développer si on va prochainement commencer les études supérieures à l'université et après quand on va travailler. C'est parce que si l'échec de travail, c'est que ça concerne directement avec les choix de formation qu'on fait. Deuxièmement, sur la question de précarité et de logement, certes, ça c'est une question très très importante de nos jours, surtout pour les étudiants. On voit qu'il y a beaucoup de problèmes pour les personnes qui viennent à Paris, surtout à Paris, mais dans des grandes villes également, qu'ils n'arrivent pas à trouver de logement. Qui à cause de l'accès au logement, ils perdent leur formation, ils n'arrivent pas à rentrer à l'université. C'est parce qu'ils n'ont pas de logement, donc ils ne peuvent pas rester à la rue. Et également la question de situation économique des étudiants. Ça, c'est très important à voir, c'est parce que tous les étudiants, avec leurs emplois, tant qu'ils ont, ils ne peuvent pas travailler. Et même s'ils travaillent, quand ils vont faire leurs cours, quand ils vont réviser leurs cours, quand ils vont se préparer pour les questions, pour les examens et pour leurs cours prochains. Donc ça, c'est une question très importante à revoir avec le gouvernement français et également pour ceux qui viennent d'arriver en France, qui ne connaissent pas le système, par exemple, quelqu'un qui vient en France avec un bac d'un pays que son école n'est pas reconnue en France. Il va attendre quelques années pour qu'il apprenne le français et après quelques années de la langue française, il va perdre du temps. C'est parce qu'à un moment donné, quand il vous rentrez à l'université, on va lui dire que vous êtes plus l'âge. C'est parce que peut-être votre bac, il n'est pas accepté. Ou peut-être quelqu'un qui a fait 10 ans, 15, 11 ans de l'école dans son pays, il arrive ici, il veut entrer au bac en dernière année, en seconde. Mais le problème, c'est qu'on leur dit qu'il faut que vous appreniez le français. Il va passer 3-4 ans à apprendre le français et également, il aura plus l'âge de rentrer au lycée. C'est parce qu'il sera plus âgé. Il aura 23 ans, 24 ans, 25 ans. C'est l'âge pour qu'il puisse rentrer à l'université. Donc, vous voyez, le système, il est pas très clair pour ces personnes-là qui viennent d'un autre pays, qui n'arrivent pas à s'intégrer dans l'université française, dans le système d'éducation.
Peck, je me tourne vers toi pour parler de ton cas concrètement. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué dans ton parcours universitaire et qu'est-ce que tu anticipes le plus comme difficulté pour ton insertion professionnelle?
Bah, du coup, moi, je suis étudiant en situation de handicap. Donc, pour moi, ce qui est le plus compliqué, c'est d'avoir l'accès à des aménagements qui sont réellement opérationnels à la fac. C'est-à-dire que moi, j'ai le droit de ne pas aller en cours. J'ai une dispense d'assiduité, mais quand je ne vais pas en cours, je n'ai pas accès aux cours. Donc en fait, la moitié de mes professeurs ne m'envoient pas leur support de cours alors que c'est prévu dans mon plan d'aménagement pour étudiants en situation de handicap. Donc c'est validé, c'est officiel, j'y ai le droit. Et même c'est un devoir de la fac de me le donner. Mais la plupart des professeurs n'ont pas le temps, vu qu'ils sont souvent enseignants-chercheurs, etc., de lire leurs mails et tout. Donc en fait, c'est super compliqué pour qu'ils m'envoient leur support de cours en plus de toute la charge de travail qu'ils ont et de l'absence de moyens financiers mis en fait dans les universités publiques. Et évidemment aussi, normalement, j'ai aussi le droit à ce qu'on appelle la prise de notes par les autres étudiants. Donc, c'est sur volontariat et c'est rémunéré. Le seul problème, c'est que c'est sur volontariat.
Donc, si, et il n'y a pas de volontaire?
Bah, en tout cas, moi, depuis que je suis à l'Université de Paris 8, j'ai eu aucun volontaire. Ou alors, une année, en licence 3, j'ai eu des volontaires que j'avais cherchés moi-même. Et en fait, l'absence de moyens mis dans les salaires des gens qui gèrent le pôle handicap qui s'occupent de ça a fait qu'on a eu des délais de réponse de 3 semaines. Et ajouté comme ça, bah, j'ai pas eu du coup cet aménagement. Tous les étudiants qui m'envoyaient leurs notes n'étaient pas rémunérés. Et ça, c'était l'année où j'ai eu de la chance d'en avoir. Parce que l'année dernière, en Master 1, j'ai pas eu de volontaire. Donc j'étais dépendant de la prise de notes juste des étudiants de ma promotion. Et en fait, très souvent, je passais des partiels en ayant eu 2 jours pour apprendre le cours. Parce que j'ai eu le cours 2 jours avant le partiel.
Ouais. Et pour ton insertion professionnelle, tu penses que ta situation de handicap aussi va représenter un challenge ?
Bah oui, parce que en fait, comme j'ai pas accès aux cours et je peux rater parfois des évaluations, ce genre de choses, bah je peux ne pas avoir de diplôme. Et en fait, moi, avec mes handicaps, même si ça se voit pas, il y a des impacts physiques et je peux pas faire des jobs alimentaires, vendeurs, enfin des trucs où il faut être vraiment une tâche physique. Et du coup, en fait, ma seule voie possible pour trouver un taf, bah, c'est un diplôme dans un domaine plutôt assez bureau, quoi. Donc moi, je suis dans la com, ou par exemple, dans la recherche en communication. Bah, en fait, si j'ai pas mon diplôme, il suffit juste que j'ai pas mes aménagements dans l'année entière appliqués. Et je vais peut-être pas avoir assez de notes pour valider l'année. Et j'ai failli redoubler l'année dernière, alors que j'avais une très très bonne moyenne à l'année. Mais juste parce que j'ai pas rendu mes devoirs à temps, parce que je devais gérer mes problèmes médicaux, des rendez-vous médicaux, même aider ma sœur ou plein d'autres choses. Même là, par exemple, je commence l'année avec 3 appels qui m'ont pas été versés. Donc c'est aussi un stress supplémentaire et une recherche d'emploi que je dois gérer pour combler ça, alors que j'aurais peut-être potentiellement même pas accès à cet emploi-là parce qu'il sera pas adapté à mes handicaps. Et au final, tout ça, ça m'empêche d'avoir accès au diplôme que je recherche. Et dans mon domaine, ils valorisent énormément les bacs plus 5, en fait. Donc, si j'ai pas accès à ce diplôme, j'aurai peut-être pas accès à l'emploi. Et en plus de ça, bah, c'est difficile de vivre en France avec, on l'a vu, les coupes budgétaires dans les MDPH. Moi, pour normalement, j'ai le droit.
C'est les maisons départementales des personnes handicapées.
C'est ça. Normalement, j'ai envoyé mon dossier en 2023. Il a été traité en 2025. Et à chaque fois que j'envoyais un mail, il me disait, on en est encore à 2021, 2022, etc. Et du coup, j'ai pas eu mes aides sociales pendant 2 ans et. Et ces aides, c'est des aides qui m'aident aussi à survivre financièrement, à avoir moins de stress et aussi à réussir mes études, que je n'ai pas eu du coup, donc compliqué.
Si tu devais donner un conseil à un lycéen ou une lycéenne qui veut venir à Paris 8, ce serait quoi ?
Sur les plans des handicaps, ce serait faites votre demande de PAEH, donc le plan d'accompagnement pour étudiants handicapés le plus tôt possible, même si vous n'avez pas de reconnaissance officielle par une MDPH ou quoi, tant que vous avez un diagnostic même de votre médecin traitant, c'est suffisant. Et juste vraiment pour finir sur un point, on va dire positif, c'est pas parce que l'université Paris 8, c'est une université de banlieue que c'est une mauvaise université. Faut savoir que moi, j'ai eu accès dans mon domaine à des opportunités professionnelles avec par exemple l'AFP. Et j'étais en concurrence avec des étudiants du CELSA, de Sciences Po, etc. Et en fait, dans plusieurs domaines enseignés à Paris 8, en fait, par exemple avec l'IUT de Montreuil, on a une passerelle pour éviter les entretiens dans les concours écrits du CELSA. Donc, okay. C'est une très grande école de journalisme et de communication en fait, le public. Et pareil, du coup, une fois que je suis entrée en master à l'université, j'ai eu accès à énormément d'opportunités grâce à nos professeurs qui sont très reconnus dans leur domaine. Et du coup, en fait, l'enseignement offert à Paris 8, moi, j'estime que c'est un enseignement de très, très grande qualité. C'est juste que c'est une fac qui accepte énormément de monde. Donc forcément, elle n'augmente pas dans certains classements qui sont très légitimés. Mais voilà, je vous conseille de tenter Paris 8 dans certains domaines parce que ça vaut vraiment le coup. Vous aurez de très, très bons professeurs.
Merci Peck. Mélika, je me tourne vers toi. C'est quoi, ça a été quoi ton parcours à toi et les difficultés que tu as rencontrées, hormis Parcoursup dont tu as déjà parlé?
Alors, moi, j'ai grandi à Trancy, en Seine-Saint-Denis, donc dans le 93. Et je viens du lycée Eugène Delacroix, qui a été à une époque élu un des pires lycées d'Île-de-France. Donc, on commençait déjà avec des inégalités, hein, moi et mes camarades, mais voilà, moi je m'en rendais pas forcément compte à cette époque. Et on répétait souvent, et c'est une phrase à laquelle je croyais sincèrement, c'était « quand on veut, on peut ». Et en fait, au fur et à mesure, je m'en suis rendu compte que cette méritocratie, c'est un mythe, et c'est un mythe qu'on nous a répété pendant des dizaines d'années. Moi, je m'en suis rendu compte que plus tard. Et que c'est pas forcément quand on veut qu'on peut, mais c'est quand on veut qu'on a le capital culturel, le capital social, le capital économique, les parents derrière nous. C'est quand on a tout ça qu'on peut le faire. Et moi, je tiens justement à répéter à peut-être aux lycéens, aux jeunes qui nous regardent, que c'est pas forcément quand on veut qu'on peut. Voilà. Donc c'est une phrase qui est assez frustrante et dangereuse et qui permet aux plus riches aujourd'hui de se justifier. Donc voilà. Ensuite, moi, j'ai eu la chance, sur mon parcours, de rencontrer l'association et de tomber sur l'association Ambition Campus. En gros, c'est une association qui m'a permis de pouvoir créer un réseau, de connaître... c'était des bénévoles, en fait, et c'est des gens comme nous, en fait, qui étaient là pour donner de leur temps, parce que même on reçu, et donc ils étaient là pour retransmettre à leur tour. Et donc j'ai bénéficié de stages, j'ai bénéficié de plein de formations sur l'accès... à la prise de parole en public, notamment avec Graines d'Orateur aussi, à la culture générale, à mon orientation, en fait. Si aujourd'hui, j'ai pu, par exemple, intégrer une double licence, c'est littéralement grâce aux associations, et alors que cette association-là qui justement lutte pour l'égalité des chances, en vrai, normalement, ne devrait même pas exister, parce que c'est pas leur rôle, c'est le rôle de l'État. Et donc, c'est ces associations, comme Ambition Campus, comme GetUp, comme Graines d'Orateur, qui font porter le poids de l'incompétence de l'État. Donc, heureusement qu'elles existent et qu'elles nous ont permis tout ça. Mais encore une fois, c'est pas leur rôle au final de devoir faire ça.
Tu te vois où dans 5 ans? Tu veux faire quoi?
Alors, une question qui fait très peur, qui est très frustrante.
T'es pas obligé de répondre en vrai, hein, si elle te fait chier.
Alors, je sais pas vraiment où je me vois dans 5 ans, mais je sais ce que je veux faire dans 5 ans, c'est que je sais que je veux continuer à militer, je sais que je veux continuer à m'engager, que ce soit peut-être travailler dans tes associations, dans tes ONG, mais moi avant j'étais quelqu'un voilà, qui voulait travailler dans la diplomatie, les relations internationales, au final c'est un milieu qui est assez dégoûtant, donc aujourd'hui, le plus important, c'est de pouvoir continuer à lutter, continuer à militer. Et c'est pour ça que moi, je sais que je me vois dans 5 ans continuer à lutter, que ce soit pour la cause kurde, que ce soit pour l'égalité des chances ou tout ça. Mais en tout cas, concrètement, comme métier, là, je ne sais même pas encore quel master je voudrais tenter. Donc voilà.
Bah, je te souhaite le meilleur, en tout cas, Mélika. Ina Moula, qu'est-ce qu'on devrait faire évoluer pour que les étudiants exilés puissent avoir un accès facilité aux études?
Écoutez, pour les étudiants exilés, il y a plusieurs problèmes. Déjà, dès leurs arrivées, ils parlent pas français et le système éducatif de français, la langue française qu'on a pour ces personnes-là qui sont proposées par l'OFI, c'est pas du tout équitable pour leur niveau et c'est pas équilibré en même temps pour leur niveau. C'est parce qu'on trouve dans une classe de Luffy des personnes de 18 ans, des personnes de 25 ans, des personnes de 35 ans et des personnes de 50 ans. On les met tous ensemble, on leur apprend la grammaire française alors que les personnes ne connaissent même pas c'est quoi la grammaire. Peut-être qu'ils sont inalphabés, peut-être qu'ils n'ont jamais suivi des cours de langue, peut-être qu'ils n'ont jamais suivi des cours d'alphabétisation. Et c'est pour ça, ça c'est un problème très majeur déjà dès leur arrivée. C'est parce qu'il faut qu'ils attendent déjà pour leur demande d'asile, qu'ils soient acceptés et qu'ils obtiennent des documents et ensuite ils vont convoquer pour leurs cours de français. Les cours de français, c'est pas assez. Et en même temps, au niveau aussi, le niveau n'est pas très bien pour les cours qu'on propose à l'OFI. Dans un deuxième temps, les personnes qui ont l'apprentissage de français ou qui ont appris le français, on a beaucoup de problèmes au niveau de validation de leur diplôme, ce qu'on appelle INICNARIC, même si ils ont par exemple une licence.
Ce qu'on appelle quoi?
INICNARIC. C'est une organisation qui fait l'équivalence des diplômes étrangers en France. Okay. Par exemple, si on a un diplôme à l'étranger et qu'on vient en France et on veut que notre diplôme soit reconnu au niveau français, donc il faut qu'on passe par ce dispositif qui s'appelle INICNARIC. Donc déjà, si un diplôme étranger vient en France et qu'on veut faire l'équivalence, même si c'est une licence, même si c'est le même nombre de crédit, même si c'est le nombre d'années, mais quand on fait l'équivalence, le document c'est écrit que la personne il a un diplôme Bac plus 3, mais en bas c'est écrit que l'entreprise il a le droit de refuser ce diplôme-là. Même si le diplôme c'est la même chose, mais quand même on a un commentaire en bas du diplôme, c'est écrit si l'entreprise ne vaut pas, selon ses dispositifs, il a le droit de refuser ce diplôme-là. Et donc ça veut dire que ce diplôme ça sert à rien, alors que la personne il a passé 2, 3 ans, 5 ans, 6 ans à faire son diplôme, à faire ses études, et finalement il se retrouve dans un environnement où il ne peut pas travailler, où il ne peut pas continuer ses études. Après le diplôme, même si quelqu'un arrive à obtenir un diplôme en France ou que son diplôme est reconnu, on a beaucoup de discrimination au niveau du travail, au niveau de l'obtention du travail. Ils n'ont pas plus de moyens à rentrer, par exemple, peut-être à cause de différentes discriminations, peut-être à cause de race, à cause du sexe, à cause du lieu d'habitation. Ça, c'est aussi un problème très, très majeur. C'est pour ça, de nos jours, on recommande de ne pas mettre le lieu où vous habitez. Mettez soit Île-de-France, soit Paris dans votre CV. C'est parce qu'on sait que les entreprises, parfois, ils refusent. Moi, je suis très content que je suis dans une entreprise internationale DHL et je veux que ce genre des autres entreprises soit au service des personnes exilées, parce qu'ils m'ont recruté sans poser ce genre de questions. Ils ont vu juste les compétences, ils ont vu juste le diplôme, ils ont vu juste la personne, comment elle pourrait évoluer dans une équipe. C'est ce que les personnes voient. C'est parce qu'être exilé, ça ne veut pas dire qu'il y a des incompétents ou qu'il n'a pas des possibilités ou il n'a pas des compétences. Ça veut dire qu'il a des compétences peut-être qu'avec le temps on va découvrir, avec le temps on va voir. C'est très différent parce qu'on a vécu dans un autre environnement. Et si on arrive en France, si on arrive à s'intégrer dans une société française, ça veut dire qu'on peut s'intégrer dans une équipe. Une équipe, c'est juste 10-15 personnes, alors que dans un pays, c'est plus des millions de personnes.
Tu parles aussi souvent de ce que les étudiants exilés apportent. Leur énergie, leurs compétences, leurs connaissances. Il y a un débat actuellement politique sur les visas étudiants pour les étudiants étrangers. Comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que ce soit mieux reconnu, cette valeur ajoutée, cette valeur apportée par les étudiants exilés?
Moi, je propose dans un premier temps qu'on donne la chance à ces étudiants. On voit à quel point ils pourront être utiles pour les entreprises, sur le marché de travail, pour les écoles, pour les universités, parce qu'ils peuvent apporter des différentes choses qu'on n'a jamais remarqué dans un pays, en France par exemple. En France, on a des étudiants français, peut-être on a des étudiants européens qui connaissent le système européen, qui ont des compétences européennes, mais alors qu'on n'a pas des étudiants peut-être de l'Asie ou des pays d'Afrique, peut-être qu'ils ont des compétences plus qu'ils pourraient apporter dans l'entreprise. Par exemple, la multiculturalité, par exemple, parler plusieurs langues. En France, on a du mal dans les entreprises à recruter les personnes qui parlent pas anglais, alors que les personnes qui viennent d'Asie ou des Afriques du Sud, ils parlent très très bien l'anglais. Ça, c'est une compétence qu'ils peuvent porter à l'entreprise, à l'organisation ou dans une équipe. Ça, c'est également le sens de travailler dans une équipe. Ça, c'est très important. Imaginons quelqu'un qui vient dans une entreprise française, il travaille, il rapporte ce qu'on dit, travailler en équipe. La personne qui a toujours travaillé en France, il pourrait aller dans un pays étranger, il va revivre la même expérience, et grâce à l'expérience qu'il a vécue avec cet étudiant ou cette personne, il pourrait mettre en place ses expériences dans une autre entreprise qu'il va faire à l'étranger. Donc ça, c'est tous. Il faut toujours donner la chance, il ne faut pas dire que ça, c'est une personne, peut-être qu'elle a du mal avec le français. Je ne veux pas dire que les personnes qui ne parlent pas du tout français, mais les personnes qui ont du mal avec le français, qui n'arrivent pas peut-être, ils se trompent avec les articles, ils se trompent avec la conjugaison de verbes, il faut toujours leur donner la chance. Il ne faut jamais décider sur les personnes qui n'arrivent pas à parler bien en français ou qui ont des difficultés peut-être au niveau des diplômes, au niveau de, d'autres choses, ou peut-être qu'ils n'ont pas autant de crédits qu'ils ont appris en France, parce qu'en France, on apprend différemment, et dans un autre pays, on apprend différemment, le système est partout différent. Mais ce qui compte, c'est l'individu qui est présent, il a surmonté des difficultés, il a surmonté des obstacles, qu'il est venu en France, qu'il fait des études, qu'il est présent devant vous en tant qu'un candidat pour un poste.
T'as parfaitement raison, Inamoula. Constance, tu es bénévole chez Eloquentia, une association qui forme notamment à la prise de parole. Pourquoi c'est une compétence importante pour toi que les étudiants devraient acquérir ?
Pour moi, c'est une compétence importante puisque quand on apprend à bien parler, en fait, ça nous permet de diminuer des inégalités. En fait, parler, c'est quelque chose que tout le monde sait faire, mais savoir prendre la parole en public, c'est un entraînement. On dit que la parole, c'est un sport de combat. Et en effet, il faut s'entraîner, il faut apprendre les techniques, il faut savoir utiliser le bon ton, la bonne parole, la bonne posture. Et donc, le fait d'apprendre à se présenter, à montrer qu'on est légitime, c'est le but d'Eloquentia. En fait, nous, on essaie de donner la légitimité à tous les jeunes et de leur montrer qu'ils peuvent être écoutés, que ce qu'ils produisent, c'est pertinent. Et qui peuvent aller partout, donc autant en entretien que ici ou à vendre un projet sans avoir la peur qu'en fait ils ne sont pas légitimes de parler. Que c'est grâce à, enfin c'est une certaine manière de leur montrer qu'en fait ils peuvent avancer en prenant la parole.
Eh ben merci beaucoup à toi, bravo. À Eloquentia, bravo à vous quatre. Merci beaucoup d'être venus sur ce plateau pour témoigner et nous apporter vos éclaircissements. Je vais vous laisser quitter le plateau et laisser les micros sur les banquettes. On va changer de plateau dans cette émission, toujours en direct ici de l'université Paris 8 à Saint-Denis dans le cadre de la concertation jeunesse du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Merci beaucoup le public d'être avec nous. Merci à vous sur Twitch d'être en direct. Bienvenue également à ceux qui nous regardent en replay sur YouTube. Installez-vous, chers amis, sur le plateau. On va continuer nos échanges avec un nouveau plateau et des invités exceptionnels que je remercie d'être avec nous. Installez-vous, je vous en prie. Vous êtes prêts à y aller ? Tout le monde est prêt ? Eh ben, on est y part. Nous sommes autour de ce plateau avec Stéphane Troussel, président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Bonsoir, Stéphane Troussel.
Bonsoir.
Merci, bonjour. Merci, je ne sais pas pourquoi je dis bonsoir d'ailleurs. Merci d'être avec nous, Stéphane Troussel. On est également avec Imane Bounou, créatrice de Grimpe.
Bonjour.
Salut.
Ça va ?
Merci d'être avec nous.
Merci à toi.
Merci, Imane. Nous sommes également avec Lisa.
C'est moi.
Bonjour Lisa, tu es étudiante en Master 2 de Culture et Communication ici à P8.
Oui.
Très content de t'avoir avec nous. Merci. Nous sommes également avec Noah.
Bonjour.
Salut Noah, tu es étudiante Relais Santé de Paris 8.
C'est ça, exactement.
Ça veut dire quoi Relais Santé ?
Le Relais Santé, du coup, c'est un dispositif qui est à Paris 8, mais qui peut y avoir dans d'autres facs aussi. Et c'est un dispositif qui est composé d'étudiants. Et qui fait de la promotion et de la prévention de santé directement sur la fac, avec des animations, des cafés santé qui sont tenus plusieurs fois par mois. Et voilà, pour faire de la promotion et de la prévention de santé directement dans la fac.
Trop bien. Merci d'être avec nous et on va avoir besoin de toi parce qu'on va parler dans ce plateau, on va parler de santé mentale. La santé mentale parce qu'au-delà des cours et des diplômes, beaucoup d'étudiants vivent avec du stress, de l'angoisse, parfois de l'isolement et on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez, même si on en parle de plus en plus. D'après vous, est-ce que vous diriez que la situation est de plus en plus préoccupante ou est-ce que c'est juste qu'il y a une meilleure prise de conscience de la société, que du coup les médias s'y mettent et qu'on en parle, etc. Vous en pensez quoi, vous ? Qui veut prendre la parole en premier ? C'est une question que je vous pose à tous les quatre, tiens. Chacun va parler.
Alors, moi, ça Imane. Fait un moment que j'observe la question de la situation étudiante, déjà parce que j'étais étudiante il n'y a pas si longtemps que ça, et parce que je me suis engagée très tôt sur cette question-là. Je pense que c'était un peu un non-dit, la précarité étudiante, jusqu'au Covid, où là, en fait, ça sautait aux yeux, on voyait les files d'attente devant les associations type copains, etc. Et c'était la vision un peu spectaculaire qu'il y avait un souci de précarité et de pauvreté chez les jeunes. Et depuis, finalement, on s'y est un peu habitué, c'est un peu comme les séquences de verglas, de neige, chaque hiver, bah, chaque rentrée, on voit des étudiants qui attendent et on se préoccupe pas du vrai problème. Je pense que une des explications, c'est qu'on pense beaucoup que les jeunes, dès lors qu'ils ont le bac, en fait, ils sont étudiants comme ça, en situation de précarité, et on les voit pas dans leur entièreté, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des enfants de pauvres, souvent, et qui donc sont face à la grande pauvreté, une pauvreté qui est grandissante, et à plein d'autres sujets de difficultés sociales qu'ils vivent parce qu'ils sont jeunes et d'une certaine origine, d'un certain quartier, qu'ils viennent du 93 ou d'ailleurs. Donc ça ne s'améliore pas, malheureusement. Je ne trouve pas que le traitement s'améliore aussi, même si on peut se réjouir qu'il y ait quand même eu des avancées, notamment le repas à 1 euro. Moi, je n'ai pas connu ça à l'époque. Et pourtant, j'étais boursière, j'aurais aimé, mais c'est toujours pas assez.
Les autres, qu'est-ce que vous en pensez ? Prise de conscience tardive, aggravation de la situation de la santé mentale des jeunes ? Stéphane Troussel.
Je partage à peu près le même point de vue que celui qui vient d'être exprimé, c'est-à-dire que je pense effectivement que c'était cette question de la santé mentale des jeunes est globalement un impensé, et que la crise Covid a peut-être fait plus pour révéler l'ampleur du phénomène que ce qu'on avait constaté, mesuré jusqu'à présent. Je pense aussi à d'autres phénomènes. La série Empathie, par exemple, de Thomas Njijol et Florence Lompré a beaucoup fait pour justement et traiter avec beaucoup de subtilité et de finesse cette question de la santé mentale, de la question de la psychiatrie. Mais on est loin du compte aujourd'hui. Et alors même que effectivement le phénomène prend de l'ampleur. Il y a 55% des jeunes de 18 à 24 ans qui disent avoir été affectés par un problème de santé mentale. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, le disait madame, il y a un certain nombre les problèmes, ils sont cumulatifs. C'est-à-dire que bien évidemment que l'adolescence, le passage à la jeunesse, le passage à l'âge adulte, c'est toujours un sujet, un moment compliqué. Mais quand on cumule un certain nombre de difficultés, la difficulté d'accès au logement, la pauvreté, les problèmes alimentaires, les liens familiaux, eh bien ça surajoute des difficultés. Et c'est l'ensemble de ces problématiques qui sont plus ou moins graves et surtout beaucoup, très mal pris en compte par les pouvoirs publics aujourd'hui en termes de réponse publique.
Noah ?
Bah oui, moi je rejoins parfaitement mes camarades sur cette question. Le Covid a évidemment donné une visibilité nouvelle à la santé mentale des jeunes. Ça a existé, le problème de la santé mentale des jeunes, avant la crise Covid, mais là, ça a sauté aux yeux qu'il y avait vraiment une vraie problématique à gérer. Et puis moi, là, je parle en tant qu'étudiante, mais quand il y a plein de facteurs, évidemment, aggravants. Quand on pense à tout le contexte actuel, la précarité étudiante, que ce soit pour se nourrir, pour payer son loyer, tout ce qui a été dit avant est totalement vrai. Et du coup, ouais, on en parle plus, mais on peut encore faire mieux. Et c'est pour ça que c'est bien ce genre de prise de parole aussi. Et tous les dispositifs qui sont mis en place, que ce soit ERS ou les discussions qu'on a ici. Mais on peut toujours faire mieux et il faut faire mieux parce qu'il y a toujours une problématique. Comme l'a dit mon camarade juste avant, nous on a cette info-là d'IFOP qui est sortie à la rentrée de 45% des étudiants se considèrent en bonne santé mentale. C'est moins de la moitié, donc il y a toujours une problématique qui est très importante et qu'il faut prendre en compte.
Lisa ?
Je rejoins tout ce qui a été dit. Juste, moi j'ai l'impression, et je trouve ça assez positif, que dans notre génération, il y a un tabou, le tabou a été un plus enlevé par rapport à la santé mentale. On ose beaucoup plus dire qu'on va mal, on ose beaucoup plus dire qu'on va voir des psychologues, ce qui n'était pas le cas pour moi dans les générations précédentes, et ce qui a peut-être causé le fait que beaucoup d'enfants vont pas bien, c'est qu'en fait, il y a des problèmes déjà avant qui n'ont pas été résolus et du coup qui pèsent ensuite sur les générations d'après.
C'est quoi pour vous le facteur qui pèse le plus dans la dégradation de la santé mentale des jeunes ? Est-ce que c'est le stress des études ? Est-ce que c'est la précarité ? Est-ce que c'est les réseaux sociaux ? Est-ce que c'est... Je sais pas. Lisa ?
Moi, je dirais la précarité.
Ouais.
Je pense que quand on est précaire, on est beaucoup plus confronté à des problèmes parce qu'en fait, on ne peut pas les régler puisqu'on n'a pas l'argent pour pouvoir les régler. Et quand on est étudiant et qu'on vit dans un appartement de 10 mètres carrés, c'est difficile, je pense, d'aller bien.
Les autres, vous êtes tous d'accord ?
Bien sûr que la précarité, c'est la première difficulté qui est la plus la plus discriminante à ce niveau-là, bah, quand t'as pas d'argent, pour quand tu dois choisir entre payer ton loyer ou te nourrir ce mois-ci, bah voilà. Mais c'est sûr que, et on a un public ici aussi à Paris 8 qui est particulier. On a beaucoup d'étudiants étrangers qui sont loin de chez eux, qui parlent parfois pas la langue. Donc, en fait, c'est multifactoriel. Évidemment, la précarité est au cœur, au centre de ce qu'on doit combattre. Et mais il y a beaucoup de facteurs qui font que la santé mentale, ça peut se dégrader. Donc, on a tout le contexte actuel autour de nous. On a les études. Si tu fais une double licence, c'est pas la même chose que si t'es en L1. Si t'as de quoi payer tes courses, c'est pas la même chose que si t'es tout seul, que t'as pas de parents. Enfin voilà. Donc il y a plein de facteurs évidemment qui jouent là-dedans dans la santé mentale des jeunes.
Il y a quelqu'un dans le chat qui dit est-ce que le manque d'espoir quant à l'avenir joue aussi ? Ça peut y participer, Stéphane ?
Enfin, moi, je suis encore une fois, on est très convergents les uns avec les autres. Je partage l'idée que c'est le sujet est multifactoriel, mais bien évidemment que l'ampleur des phénomènes est aggravée quand on cumule un certain nombre de difficultés. Et donc, il ne s'agit pas de dire que des jeunes des milieux plus favorisés n'ont pas de problèmes psychologiques et de santé mentale, bien sûr, parce que les incertitudes, l'inquiétude face à l'avenir, l'inquiétude par rapport à l'évolution au réchauffement climatique, les conflits à travers le monde, tout ça sont autant d'éléments. Mais bien évidemment que quand on cumule la précarité, les problèmes de logement, les problèmes de santé, une famille avec elle-même des difficultés, ça aggrave les choses. Et deuxième élément sur lequel je veux insister, c'est aussi le fait que dans un certain nombre de territoires, et vous comprenez bien pourquoi je dis ça comme président de la Seine-Saint-Denis, c'est que quand le diagnostic est plus tardif et que parce que notamment il n'y a pas suffisamment de structures de prise en charge, bah, les phénomènes sont plus lourds et par ailleurs ils s'aggravent quand le diagnostic est tardif. Donc oui, quand même, bah, c'est toujours la même chose. Hein, les plus en difficulté sont confrontés à des problèmes plus grands et plus lourds.
Et si je peux rajouter quelque chose, je suis d'accord avec vous. Je rajouterais aussi qu'il y a vraiment cette notion de service public. Le CROUS, c'est un service public. Et je pense qu'on connaît le coût mental de devoir attendre sa notification de bourse, quand est-ce qu'on va savoir où on va loger, de tomber dans un logement qui est catastrophique. Moi, j'étais étudiante ici, j'étais aussi habitante de la Seine-Saint-Denis et j'ai fait 4 CROUS différents. Donc, je peux vous faire une petite cartographie de ce qu'il y a de pire et de ce qu'il y a de meilleur. Et aussi, bien sûr, la notification de bourse. Enfin, tous les mois, on attend à ce que ça arrive avec très peu d'interlocuteurs. Bon courage pour essayer d'avoir quelqu'un au CROUS. Il faut appeler à 9h et il faut rester toute la journée. Donc voilà, il y a aussi un vrai désengagement de l'État, en fait, dans les services publics qui va intervenir très tôt. Et donc, ça va être l'accès à la santé, l'accès à une école de bonne qualité. Et puis, une fois qu'on est étudiant, l'accès à ses droits. Et notamment ses droits d'étudier sereinement, ses droits d'aide sociale, mais aussi ses droits à la santé. La majorité des étudiants ne savent même pas à quoi ils ont droit pour se soigner et ne font pas aussi appel aux médecins, parce que déjà, c'est compliqué de trouver un médecin traitant. Et puis ensuite, on ne sait pas si on a le droit à un psychologue. Et les psychologues qui rentrent dans le cadre des séances gratuites, ils sont assez peu. Et donc, c'est compliqué d'avoir un rendez-vous. Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et au final, c'est parce qu'il y a des territoires où il y a moins d'investissements. Et globalement, on est face à un désengagement beaucoup trop important de l'État dans des services publics qui sont pourtant essentiels.
Alors toi, justement, Imane, tu as créé Grimp, qui est une boîte à outils virtuelle pour aider les jeunes. C'est quoi ton projet ?
Alors, mon projet, donc moi, j'étais étudiante boursière. Je vous disais que j'étais étudiante ici pour ma licence et puis après, j'ai été faire mon master ailleurs. Et quand j'arrive en master, je me dis, moi, j'ai découvert plein de trucs en me prenant des murs, en me cassant la gueule et en par chance. On peut tomber sur une affiche et on va se dire « Ah ben moi, j'ai le droit à ce dispositif, j'ai le droit à cette association. » Et ça, pour moi, c'est pas normal. L'asymétrie d'information, elle est dangereuse, en fait. Parce qu'un étudiant qui sait tout ce qu'il a le droit de faire, tout ce qu'il peut faire, tous les droits auxquels il peut prétendre, et un étudiant qui est juste tout seul, parce que c'est souvent des étudiants qui vont être les premiers de leur famille à faire des études, eh bien, en fait, le gap, il est énorme. Et donc, moi, quand j'arrive en master, je me dis, je vais créer une plateforme assez naïvement où je vais donner des conseils pour bien manger, bien soigner, bien se loger, travailler, trouver son stage, trouver son logement quand on n'a pas de garant, pour éviter un peu tous ces pièges. J'ai aucun mal à parler de stratégie de survie. Je pense que vraiment, c'est une question de survie, en fait, quand on est un profil comme le mien. Enfin, moi, je suis pas d'ici, à la base, je suis sartoise, donc je débarque à Paris, je connais personne, je suis toute seule dans mon crous à Bobigny. Donc, il m'a fallu survivre, et donc je donne ces techniques-là de survie.
C'est quoi l'élément que tu juges le plus utile à un jeune qui est dans une période de détresse en santé mentale ?
Je pense que tu avais raison quand tu disais la question du tabou. Heureusement, maintenant, il n'y a plus de tabou. Donc, on dit qu'on ne va pas bien. Et je pense que c'est vraiment le fait de se sentir accompagné. Les réseaux sociaux, d'une certaine manière, montrent qu'on n'est pas seul, puisqu'on voit des personnes qui ont les mêmes complications que nous. Mais la base des bases, quand même, c'est la présence humaine. On est dans une fac que moi, j'ai adoré parcourir et qui a énormément de chance, en fait, parce qu'il y a un corps associatif extrêmement important. On les a vus juste avant dans la table précédente. Donc, c'est vraiment d'aller demander de l'aide. Parce que cette aide, elle peut être extrêmement précieuse et on peut sentir qu'on est soutenu. Les études, franchement, c'est wild de ouf. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand on n'est pas bien, quand on est tout seul et quand on a difficultés économiques, difficultés sociales, difficultés scolaires, il faut qu'on aille voir quelqu'un. Et donc, vraiment, pour moi, ça serait d'aller demander de l'aide.
Lisa, pour toi, la santé mentale, c'est un enjeu super important, un enjeu que tu juges sous-estimé, voire même invisibilisé. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus ?
Oui, bien sûr. Je vais un peu répéter ce qu'on a déjà commencé à dire, mais je trouve que c'est un enjeu qui est déjà invisibilisé, mais surtout dépolitisé. Emmanuel Macron en fait désormais un peu la cause de son quinquennat. Mais en fait, comme on l'a dit avant, hein, mais il faut le resituer dans une situation politique où les jeunes sont anxieux par rapport déjà à une situation qui est très peu stable, à un génocide en cours, à un avenir qui est incertain. Et à une précarité grandissante, surtout chez les, enfin, précarité grandissante partout dans le pays, mais les jeunes la subissent. Et par exemple, Copain, l'association, a sorti son baromètre et il y a des chiffres qui sont assez parlants. Il y a 49% des étudiants qui ont que 100 € après avoir payé leur loyer. Donc, quand on a 100 € de reste à vivre, c'est difficile de s'attarder sur sa santé mentale. C'est difficile de pouvoir se payer un psychologue. Donc certes, il y a des dispositifs qui sont mis en place. Par exemple, le dispositif Santé Psy étudiant, qui nous accorde 12 séances gratuites. Mais par exemple, j'ai tenté d'avoir ce dispositif. J'ai contacté une psychologue à qui j'ai envoyé un mail en octobre et qui m'a dit qu'elle n'avait pas de place avant décembre. Tellement beaucoup d'étudiants souhaitaient avoir ce dispositif. J'ai dû contacter, je pense, une quinzaine de psychologues avant d'avoir une réponse positive. Et en fait, la psychologue avec qui j'ai pris rendez-vous et qui a accepté de me prendre m'a dit que le temps où j'ai pris le rendez-vous et le temps où on a eu les rendez-vous, elle m'a dit maintenant je n'ai plus recours au dispositif. Je fais
pourquoi ?
Parce qu'en fait, elle trouvait que c'était mal fait, qu'elle n'arrivait pas à le prendre en considération, quoi. Elle m'a dit qu'elle voulait plus l'utiliser, elle m'a dit qu'elle faisait juste l'exception pour moi, et je pense que ça montre les défaillances de ce dispositif, qu'il faut en fait le repenser pour qu'il soit adapté. Et même 12 séances, c'est déjà bien. Avant, c'était 8. Il y a eu une augmentation, c'est déjà bien. On peut pas le nier. Mais 12, c'est déjà trop peu. Si on veut vraiment suivre une thérapie sur du long terme, 12, c'est, je pense, pas assez. Et au bout de la 13e séance, quand on nous dit maintenant il faudra payer 60-80 €, on n'a pas l'argent. Donc je dirais pas qu'on a fait tout ça pour rien, mais on a fait déjà des efforts, on a eu une avancée, mais qui peut pas être perpétuée. Donc c'est dommage.
Comment est-ce que les universités pourraient mieux intégrer les enjeux de santé mentale de leurs étudiants ?
J'aimerais quand même souligner les efforts qui sont faits par la fac. Enfin, je sais qu'il y a au moins 5 psychologues qui sont disponibles sur la fac. Mais moi, par exemple, en tant qu'étudiante, j'en entends pas tant parler de ça. Je trouve que la communication n'est pas assez forte là-dessus. J'aimerais recevoir plus de mails, j'aimerais voir plus d'affichages. J'aimerais qu'on nous en parle à la rentrée, qu'il y ait par exemple une référente santé mentale qui nous explique vers où se retourner si on a besoin, si on a des problèmes. Et j'aimerais que les étudiants soient plus pris en compte par rapport aux partiels, par exemple. Si on va mal, qu'il y ait des dispositifs, hein, qu'il y ait des modalités d'évaluation qui soient différentes pour les élèves qui vont mal, que ce soit repensé plus au cas par cas.
Noah, toi, tu l'as dit tout à l'heure, tu es dans le dispositif étudiant relais santé. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'engager dans ce dispositif ?
Et ben, du coup, moi, à la base, c'était vraiment... d'un point de vue personnel, je savais pas du tout à quoi m'attendre pour ce travail-là, et je voulais vraiment être très insérée dans la fac, dans la vie étudiante. Et plus j'ai commencé à découvrir qu'on a fait les formations et tout ça, plus ça m'a apparu comme un travail qui m'a rendu très utile et auprès des étudiants, qui a été très très enrichissant. J'ai appris plein de choses. Et c'est vrai que voilà, moi j'ai entendu juste avant, du coup on fait peut-être pas assez bien notre boulot encore, mais on va s'améliorer, on va s'améliorer. Les affiches arrivent bientôt. Les affiches arrivent bientôt. Du coup, ouais, juste pour faire la correction, pour la précision, parce qu'il y a peut-être des étudiants qui nous regardent de P8, il y a actuellement 3 psychologues qui sont sur la fac, mais on veut justement encore plus de psychologues, donc il y a d'embauche, tout ça qui est en cours. Mais ouais, donc ce dispositif. Et je pense que je peux parler pour les autres ERS qui sont avec moi. C'est tellement enrichissant. On apprend avec les étudiants, on débat avec eux, on fait des animations autour des sujets de santé qui sont difficiles à aborder. La santé mentale, c'est pas facile. Hein. Il y a des gens qui sont, bah, on parle. Il y a encore un peu de tabou, même si ça va de mieux en mieux. Il y a encore un peu de tabou. Donc nous, justement, on y va avec ce côté très détendu, essayer d'y aller de manière ludique avec des jeux de. En plus d'étudiant à étudiant, donc c'est sur le système de pair aidance. Donc
oui, c'est ça. La santé mentale, ça repose beaucoup sur la pair aidance, et la solidarité entre étudiants est aussi très importante. Il faut savoir en parler, savoir détecter, y compris dans une bande de potes, quelqu'un qui va de moins en moins bien, réussir à l'orienter. C'est pas toujours évident.
Mais il y a des dispositifs qui font de la. Là, je parle de le dispositif Nightline, qui est aussi sur la fac, qui est un dispositif justement qui fait des formations auprès des étudiants pour les aider justement à reconnaître ce genre de difficultés, à reconnaître un étudiant, un copain qui est en détresse psychologique. Et nous aussi, avec le dispositif ERS, quand on fait nos cafés santé, on essaye aussi d'aborder des sujets qui sont pas faciles et de dire ça peut arriver à tout le monde. La santé mentale, tout le monde en a une, comme la santé physique. Et il faut en prendre soin. Tout le monde doit en prendre soin. Voilà.
Stéphane Troussel, vous êtes président du département de Seine-Saint-Denis depuis 2012. Est-ce que vous avez constaté une différence de considération de la notion de santé mentale ?
Ah oui, clairement. Et puisque tout à l'heure, on a parlé à plusieurs reprises, les unes et les autres, par exemple, de la crise Covid, moi, j'ai été frappé à ce moment-là une nouvelle fois pendant la crise Covid parce que, bien sûr, il y avait les questions liées aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap, mais cette question des jeunes et des étudiants isolés avec des difficultés alimentaires, etc., a sauté aux yeux. Et à cette occasion, par exemple, j'ai pris la mesure du fait que, contrairement aux autres départements d'Île-de-France, la Seine-Saint-Denis, malgré ses 60 000 étudiants présents sur le territoire, n'avait pas de bureau d'aide psychologique universitaire. Il y en avait 3 dans le Val-de-Marne, il y en a 4 à Paris, 0 en Seine-Saint-Denis.
Ah ouais.
C'est
la responsabilité de qui ?
Notamment de l'Agence régionale de santé,
l'ARS.
Puisque les questions de santé sont, même si nos collectivités font de plus en plus en matière de santé, tous les dispositifs de soins relèvent d'abord de l'Agence régionale de santé. Et donc, il existait un lieu, un tout petit lieu à La Courneuve qui était financé à la fois par le département et par l'ARS pour prendre en charge les collégiens et les étudiants. Et donc, grâce à cette mobilisation, grâce à ces constats, ce lieu, il a obtenu un premier financement pour prendre en charge pendant cette période, pendant 6 mois, les étudiants. Et à force de faire un peu monter la pression, de mobiliser, eh bien, on a obtenu que le lieu accueille de manière définitive aussi les étudiants. Et donc, il y a désormais, il s'avère que le département a facilité, y compris l'identification d'un local, d'un lieu, et donc il y a des locaux à La Courneuve, en face de la mairie, avenue de la République, où eh bien un étudiant qui souhaite rencontrer un psychologue peut aller dans ce lieu-là. C'est un lieu qui est géré par la Fondation pour la santé des étudiants de France, et donc c'est tout à fait possible. Mais je veux insister sur une autre chose. La réalité, c'est que c'est toute la santé mentale qui est en grande difficulté dans notre pays. C'est vrai dans l'ensemble du pays et c'est singulièrement vrai dans un département aussi jeune que le nôtre. Hein, par exemple, aujourd'hui, un enfant, une famille qui veut avoir un rendez-vous dans un centre médico-psychologique pour son enfant, y compris parce qu'il y a une orientation vers un CMP de la part d'un médecin ou de la part, par exemple, de la MDPH, eh bien, c'est 6 mois à 1 an d'attente. 6 mois à un an d'attente. Et bien évidemment que quand on met autant de temps à faire le premier rendez-vous à l'issue d'un diagnostic, eh bien, c'est une prise en charge qui est plus lourde et plus difficile. Et donc, cet enjeu-là, il suffit pas, comme le disait Lisa, je crois, que le président de la République proclame la santé mentale comme une grande cause nationale. Il faut surtout, désormais, y mobiliser des moyens conséquents. Et la réalité, et y compris des moyens conséquents, mais je le dis aussi, où il faut mettre plus de moyens là où il y a plus de besoins et où il y a moins aujourd'hui sur le territoire. Un autre chiffre, et c'est le dernier que je vous donne, 80% des psychiatres du Grand Paris sont exclusivement installés dans Paris intramuros. C'est ça la réalité d'aujourd'hui. Donc là encore, moi je veux bien qu'on ait des débats qui n'en finissent jamais sur la liberté d'installation des médecins, mais peut-être que quand il y a une surreprésentation de telle ou telle profession médicale à tel ou tel endroit, peut-être qu'il peut y avoir un peu de régulation vers les territoires où il y en a moins.
C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que le territoire de la Seine-Saint-Denis est bien doté aujourd'hui en psychologue, en psychiatre, en CMP, en urgence ?
Non, et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu un collectif de psychiatres, de psychologues, de pédopsychiatres qui a publié une tribune dans Le Monde il y a quelques jours et qui tire une nouvelle fois la sonnette d'alarme sur les grandes difficultés. Et encore une fois, désolé de faire encore référence au président de la République, mais il y a pas si longtemps que ça, il évoquait la nécessité pour la France de se réarmer sur le plan démographique. Bon, bah déjà qu'on s'occupe bien des jeunes et des enfants de ce pays, parce que la réalité d'aujourd'hui, c'est que l'absence de prise en charge, elle rajoute, elle aggrave les troubles. Donc il faudrait déjà bien s'occuper des enfants et des jeunes de notre pays aujourd'hui. Et c'est loin d'être le cas.
Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus sur ce plateau pour aborder ce sujet difficile de la santé mentale des jeunes et des étudiants. Je vais vous laisser quitter le plateau. On va continuer cette émission. Applaudissements du public pour nos invités. Merci beaucoup. Et on va continuer avec un seul invité qui va venir me rejoindre sur ce plateau. J'accueille Charles Cuvillier. Salut Charles. Vas-y, parle dans le micro.
Salut.
Tu vas bien ?
Très bien, et toi ?
Ouais, ça va, merci. Merci d'être avec nous. Charles, tu es de l'association Copain. Et tu vas nous faire une carte blanche. Vous connaissez peut-être l'association Copain. Ils sont partout en France pour soutenir les étudiants en situation de précarité avec des distributions alimentaires, des permanences, du soutien concret. Pour cette carte blanche, on leur laisse l'espace pour partager un message sans filtre. Tu as 5 minutes, je ne te coupe pas la parole, je t'en prie Charles.
Parfait, merci. Bonjour à tous déjà. Donc moi je vais parler de l'étude. On en a parlé un peu rapidement quand on parlait de santé mentale. L'étude qu'on réalise tous les ans depuis 3 ans maintenant avec l'IFOP, qui est un baromètre sur la précarité étudiante. Et donc on l'avait dit, donc pour faire un peu le pont là-dessus, l'étude elle révèle qu'il y a 2 étudiants sur 3 aujourd'hui qui ressentent régulièrement des émotions négatives et seulement 1 sur 5 qui consulte un psychologue. Donc on voit bien l'écart dont on a parlé sur la nécessité d'avoir un soutien psychologique fort et une absence de réponse concrète. Les chiffres qu'on relève avec Copain depuis maintenant 3 ans, ce qui est assez alarmant aussi, c'est qu'ils sont constants et qu'ils ne bougent pas. Donc on n'a aucune réponse claire qui est apportée sur la précarité étudiante, sur le manque d'accès à la santé mentale. Et c'est des difficultés qui s'ajoutent petit à petit. Si on prend par exemple la précarité alimentaire, en France, il y a 2 étudiants sur 3 qui ont déjà sauté des repas par manque d'argent. Et ça, c'est un chiffre qui est stable depuis 3 ans. Donc, c'est pas. On avait parlé de la crise du Covid, ensuite la crise de l'inflation qui était venue visibiliser la précarité étudiante, mais ça les a pas. C'était pas des phénomènes qui ont aggravé la précarité étudiante, ça les a juste révélés. Et on constate les mêmes chiffres depuis 3 ans. Donc, ces étudiants qui sautent des repas, donc forcément, ça crée des problèmes de santé, ça fait un frein, ça crée un frein pour. L'accès pour étudier dans des conditions dignes, des étudiants qui changent leurs habitudes alimentaires, qui réduisent les portions, cèdent des repas, arrêtent de manger de la viande, font des choix de nourriture à bas coût pour pouvoir faire clôturer leur budget. Si on a la même thématique sur les logements, avec 4 étudiants sur 10 qui renoncent à chauffer leur logement. Donc aujourd'hui, la vie étudiante, c'est ça, c'est des arbitrages qui sont permanents, savoir est-ce qu'on va manger le soir ou est-ce qu'on va chauffer son appart. Beaucoup de choix comme ça qui sont très contraints dans le quotidien et qui pèsent sur la vie des étudiants, sur leur réussite académique, sur leur santé mentale. Cette année, on va commencer à faire un suivi aussi sur la réussite académique des étudiants et comment la précarité les contraint dans leur réussite. On en parlait aussi en première partie de l'émission de tous ces freins qui peuvent exister. Aujourd'hui, il y a 30% des étudiants qui ont déjà renoncé à intégrer l'établissement de leur choix pour des raisons financières. Donc on voit bien que la précarité contraint pas seulement dans le quotidien, mais aussi dans l'avenir, où on freine ses ambitions à cause de raisons financières. Et donc ça, c'est avant de s'inscrire dans un établissement, mais même une fois qu'on est inscrit, il y a beaucoup d'étudiants qui souffrent de leur précarité et ça pèse sur leur réussite académique. Donc l'étude qu'on mène avec l'IFOP, elle est réalisée sur un double panel, un panel d'étudiants en population générale et un panel d'étudiants bénéficiaires. Et ce qu'on voit sur notre étude, c'est qu'il y a deux fois plus d'étudiants bénéficiaires de copains qui redoublent par rapport à la population générale. Et donc c'est pas parce qu'ils sont moins compétents que d'autres, c'est parce que la précarité, c'est aujourd'hui un frein monumental à la réussite des étudiants et ça les empêche de se développer autant qu'ils pourraient, d'intégrer l'école de leur choix, de décrocher leur diplôme et ensuite de rentrer dans le monde du travail sereinement. Donc une fois qu'on a dit tout ça et qu'on dresse le même constat depuis 3 ans, on peut réfléchir à quelles solutions qu'on peut apporter. On a parlé un peu rapidement des dispositifs qui existaient et qui sont malheureusement très méconnus des étudiants. Notre étude, elle montre que la moitié des étudiants ignorent les aides financières psychologiques sur lesquelles ils ont droit. C'est même 3 étudiants sur 4 pour les aides juridiques. Et donc là, nous, ce qu'on dit là-dessus, sur ce constat, c'est que c'est un problème de construction de ces aides, plus que de communication, parce que c'est des aides qui sont pensées sans les étudiants. Et donc nous, on demande une vraie co-construction à ce niveau-là pour que ce soit des aides qui soient adaptées et qui répondent pleinement aux besoins de tous. Et c'est là que des associations comme copains peuvent avoir un vrai rôle à jouer. Donc l'association, elle existe depuis 5 ans. On est présent dans 27 villes maintenant partout en France, dans la France métropolitaine et dans les territoires ultramarins, pour apporter l'aide qu'on peut aux étudiants avec des distributions alimentaires, de l'aide d'accompagnement, avec un système d'aide par et pour les étudiants. Donc tous les bénévoles de l'association sont jeunes ou étudiants. Et donc c'est ça la force de l'association, c'est que on est proche du public qu'on aide et donc on est capable d'apporter des réponses précises. Et c'est la chose qu'on demande pour construire des solutions adaptées à la jeunesse aujourd'hui.
Merci Charles, on peut l'applaudir très fort. Et à travers lui, l'association Copain, j'invite les suivants à nous rejoindre sur le plateau. Venez vous installer. Charles, tu restes avec nous. On va parler de précarité étudiante et solidarité au sein des universités. C'est devenu une question centrale parce que oui, être étudiant aujourd'hui, c'est pas seulement bosser ses cours, c'est aussi gérer le loyer, les aliments, les transports et parfois même la santé, la honte, le stress, etc. J'accueille à mes côtés pour en parler Erin. Salut Erin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Tu es étudiante en psychologie ici à P8.
C'est ça.
Et tu es par ailleurs bénévole de Linky, qui fait de l'aide alimentaire et la lutte contre le gaspillage.
C'est ça. Alors, déjà, merci de m'accueillir. Effectivement, je représente l'association Linky, chez qui je suis bénévole depuis maintenant 1 an. C'est une association qui aide les étudiants précaires en redistribuant des invendus. Donc, ça permet de faire un pont entre les commerces et les personnes en galère. Je dirais via un système qui est éthique, qui est local. On a également un dispositif de soutien psychologique. On est en partenaire aussi avec Psynomade. Donc, ce sont des psychologues qui parfois viennent voir les étudiants. Et pendant qu'ils attendent et qu'ils font la queue pour récupérer leur panier alimentaire, ils peuvent tout simplement parler avec les thérapeutes, parler avec les psychologues, prendre un temps à la fin de la distribution pour parler de leurs soucis. Ça, je trouve que c'est très important.
Merci, Erin, d'être avec nous. On va continuer à en parler. Nous sommes également avec Yasmina. Salut, Yasmina.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, Yasmina. Tu es étudiante en master ici à P8.
C'est ça.
Master de quoi, raconte ?
En master d'urbanisme dans l'Institut d'études européennes de P8.
Trop bien.
Très riche, et ça recoupe plein de sujets qui nous touchent tous et toutes.
Ouais, grave. Tu viens de faire ta rentrée, là ?
Je viens de me rentrer en M2.
Ça se passe bien ?
Ça se passe très bien.
Trop cool. Eh ben merci d'être avec nous, Yasmina. Et enfin, nous sommes avec Oriane Fiol. Bonjour, Oriane.
Bonjour.
Oriane, vous êtes élue départementale déléguée à la jeunesse ici au conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Merci d'être avec nous. Première question de ce tour d'échange sur la précarité étudiante. Justement, si je vous dis précarité étudiante, qu'est-ce que ça vous évoque en premier ? Qui veut se lancer en premier ? Vous allez tous répondre. Vas-y.
Erin. Alors,
Je pense que quand on parle de précarité étudiante, on pense directement à l'aspect financier. Pour moi, la précarité étudiante est multiple. On parle de logement, on parle de numérique, on parle d'insertion professionnelle, on parle d'alimentaire. Donc dans la précarité étudiante, on a énormément de variations aujourd'hui. Et c'est ce qu'on essaye d'expliquer en tant que jeune. C'est-à-dire que moi, si aujourd'hui j'habite à 2 heures de chez moi et qu'il faut que je déménage parce que ça me faciliterait pour aller à l'école tous les jours, ben, j'aimerais bien le faire, mais j'ai pas l'argent pour. Et ça, c'est aussi de la précarité étudiante. C'est aussi les colocations trop chères. C'est aussi les logements insalubres. La difficulté aujourd'hui à trouver un logement, la difficulté aujourd'hui à trouver du travail. Donc la précarité étudiante, c'est pas juste l'aspect financier, c'est un tout et qui vient vraiment impacter la santé mentale de nos étudiants aujourd'hui, des jeunes. Et je rebondis sur l'étude dont vous aviez parlé tout à l'heure avec effectivement 100 € par mois de reste à vivre. Mmh. Ça fait 3,33 € par jour. En partant du principe qu'à la base... un panier Crous, c'est 3,30 €. Ben, en fait, ça fait quoi? Ça fait un panier par jour. Enfin, je suis désolée, mais pour moi, il y a vraiment une... j'ai l'impression qu'il y a une déconnexion totale entre ce qu'on attend des jeunes et la réalité. Et je pense qu'il y a effectivement des leviers qui, aujourd'hui, permettent aux étudiants de survivre, parce que c'est de la survie. Et c'est des leviers qu'il faut renforcer, mais ça, je pense qu'on en parlera un peu plus tard.
On va en parler un peu plus tard des leviers qui existent aussi. Les autres sur la précarité étudiante. Yasmine.
Oui. À mon
Yasmina,
sens,
excuse-moi.
C'est pas grave. Pas de souci. La précarité étudiante, c'est aussi la santé. Je trouve que c'est quelque chose qu'on néglige. On en parle trop peu, voire pas du tout, pour être honnête. Et que ce soit la précarité menstruelle pour les personnes menstruées, ou bien la précarité sur la santé en général. Certes, on a la carte vitale, le peu de droits sociaux qui nous restent, qui ont été durement acquis et qu'on arrive encore à garder. Mais en réalité, il y a cet aspect où il faut avancer les frais quand on va voir un médecin. On va repousser, on va dire que c'est pas grave. On va pas voir de dentiste. On va avoir le droit à un rendez-vous tous les 5 ans avec MT Dents. On va avoir le droit à des petites choses et on devrait se contenter du minimum. Vivre avec la douleur, c'est pas des choses qui sont normales quand on est étudiant, étudiante ou non. Et je trouve que cette précarité-là, bah, elle entache le reste des pans de la vie d'une personne et c'est inquiétant, très inquiétant même que les étudiants et étudiantes dans cette situation-là.
Auriane Filleul, c'est très présent en Seine-Saint-Denis, la précarité étudiante.
Tout à fait, la précarité étudiante et le fait, je trouve qu'on se dit pas assez souvent que ce temps de vie étudiante est vraiment un temps particulier. On n'est plus complètement sous la responsabilité des parents, on n'est pas encore complètement autonome. La précarité n'est pas propre aux étudiants, on en a déjà parlé sur les tables rondes précédentes, mais c'est un moment de la vie qui est structurant, qui est censé être le moment où on se construit, où on pose des bases solides pour pouvoir ensuite rentrer dans une vie professionnelle choisie et épanouissante et construire toute sa vie comme on l'entend. Et ce temps de précarité fragilise tout, puisque lorsqu'on est obligé de trouver un emploi qui parfois empiète sur les études, lorsqu'on n'est pas en capacité de se soigner comme on devrait, on a du coup des maladies, des types de handicaps qui peuvent s'aggraver. Et en Seine-Saint-Denis en particulier, on a le territoire qui est le plus jeune de France métropolitaine. On a quasiment la moitié des habitants de Seine-Saint-Denis qui ont moins de 30 ans. Donc un grand nombre de ces jeunes qui sont concernés par la vie étudiante. Et une autre spécificité, je trouve, de cette période de vie, qui sont des injonctions contradictoires, peut-être, que la société inflige aux jeunes. On dit aux jeunes, il faut faire des études, parce que comme ça, tu choisiras ta vie professionnelle ensuite, mais le temps des études est hyper fragilisant, comme on se l'est dit. Et parfois, on dit aussi aux jeunes, bah, il faut faire des études, mais la voie de l'apprentissage, par exemple, c'est pas mal, parce qu'au moins, ça te permet d'apprendre un métier tout de suite, et puis d'avoir un salaire dans le cadre de l'apprentissage. Et donc, on a beaucoup de jeunes qui prennent cette voie. Et aujourd'hui, on se retrouve avec trop peu d'entreprises qui proposent des offres d'apprentissage. Et donc, des jeunes qui ont enfin trouvé une école après la galère des inscriptions et qui finalement n'ont pas d'apprentissage derrière. Et donc, se retrouvent en situation de précarité alors qu'on leur avait vendu que c'était ça le bon modèle pour s'insérer plus facilement.
Erin, est-ce qu'avec l'association Linky, il y a des situations de précarité plus récurrentes que d'autres? Alors... est-ce qu'il y a des choses que tu vois émerger qui sont nouvelles?
Effectivement, c'est toujours cette question de, avec le peu d'argent qui me reste, est-ce que je vais payer mon loyer ou acheter mon matériel scolaire ou est-ce que je vais me nourrir? C'est vraiment les mêmes questions que se posent les étudiants. On a un peu un profil type, même si j'ai envie de dire qu'on accueille réellement tout le monde. On voit de tout. On voit vraiment tout type d'étudiants qui viennent de tout type de milieu. Il y a des étudiants qui ont, par exemple, des parents qui gagnent assez d'argent. Mais en fait, donc, ça fait en sorte que l'étudiant ne touche pas la bourse. mais en réalité, il en aurait besoin parce que ses parents, par exemple, ne lui donnent rien pour X ou Y raison. On a aussi des étudiants qui n'ont pas de parents du tout, qui sont en France seuls. Enfin, c'est très compliqué. On a tout type d'étudiants, mais le seul point commun entre tous, c'est qu'ils sont dans une galère noire aujourd'hui. Et j'ai vraiment envie de le souligner. Mais c'est toujours les mêmes questions qui reviennent. Aujourd'hui, par exemple, je parlais tout à l'heure de numérique. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, tout est numérisé. T'es en classe, ton prof te contacte. Des fois, il y a des cours en visio. Des fois, on t'envoie les devoirs sur Moodle, par exemple. Si moi, j'ai pas de Wi-Fi stable ou que j'ai pas de tablette, j'ai pas de PC, je fais comment ? Bah, je me débrouille. Mais en fait,
t'as une précarité numérique qui est réelle.
C'est réel. Aujourd'hui, tout est numérisé. On peut pas dire que ouais, il suffit d'avoir une feuille et un stylo pour travailler. On aimerait, mais c'est plus comme avant. Et ça, ce sont des réalités. Je pense que le gouvernement devrait réellement prendre en compte. Le temps change, les gens évoluent, tout évolue. On est dans une nouvelle époque, qu'on le veuille ou non.
Et la précarité évolue aussi, Charles. Ce que dit Erin, ça fait écho à ce que vous constatez sur le terrain avec Copain ?
Oui, c'est ça. Donc c'est difficile de dresser un étudiant type qui est bénéficiaire de l'aide de Copain ou de Linky, je pense, parce que on a un peu plus de femmes, on a beaucoup d'étudiants étrangers. Ce qu'on voit aussi, c'est que quasiment tous les étudiants qui viennent sont non boursiers. Donc il y a une vraie chose à repenser au niveau de la bourse en France. Parce que beaucoup des étudiants précaires touchent pas la bourse.
Tu veux dire que les étudiants boursiers ont les moyens de s'acheter à manger alors que ceux que vous voyez n'ont pas les moyens ?
Non, mais les étudiants qui ne touchent pas la bourse sont encore plus précaires.
Que les boursiers. Oui, d'accord. Ouais. Ok. D'accord. Ok. Très bien. Yasmina, toi, t'es étudiante en M2. On vient de le dire. T'as fait ta rentrée, mais t'as toujours bossé à côté de tes études. Est-ce que vous êtes nombreux dans ta promo à bosser à côté ?
J'ai pas fait d'études statistiques de la chose, mais en discutant avec ses camarades, on se rend compte de beaucoup. Pour être honnête, en licence, j'étais dans une autre université qui n'était pas dans le 93, qui était à Paris, qui était dans près de... je peux te dire mon université ? Ok, très bien. J'étais à Assas en licence et c'était très différent. Ça arrive à même au meilleur.
Ça arrive des gens bien, oui, voilà, c'est ça.
Mais il y a une grosse différence où on se sent un peu comme tâche pour plein de raisons dans ce genre d'université, mais en travaillant aussi. Et du coup, on se retrouve à perdre du temps d'études parce qu'on doit travailler, parce que il faut manger, parce qu'il y a un loyer à payer. Et en comparaison, en arrivant ici, on se sent moins tâche, mais ça ne veut pas dire que l'emploi du temps le permet plus, que c'est quelque chose de plus aisé, que c'est quelque chose de plus confortable ou plus souhaitable. Mais c'est quelque chose de malheureusement de plus en plus récurrent. Dans mes cercles, de façon générale, je l'ai constaté. Et tristement, au final, parce que c'est pas normal que des personnes qui choisissent d'étudier 3 ans, 5 ans, 7 ans, plus pour certains, certaines, doivent faire face à ces questions-là et se retrouvent avec une double charge où le travail ne s'arrête pas forcément aux portes de la maison et les études non plus.
Tout à l'heure, Yasmina, tu as évoqué la précarité menstruelle. C'est vrai que quand on parle de précarité, on pense souvent au logement, au boulot, à l'argent. On ne pense pas forcément à l'accès aux soins. C'est un sujet important pour toi dans la précarité étudiante ?
Oui, enfin, pour moi, c'est un sujet qui est très, très important. Et je l'ai dit précédemment, on en parle peu, voire pas. On dit, on a mis des distributeurs de serviettes hygiéniques en début d'année. Ils sont là, ils sont en métal, ils sont tout beaux, tout propres, c'est financé par la région. Et ensuite, ils sont vides. Il n'y en a pas assez, on n'en remet pas assez. Ou peut-être que les gens ont plus besoin que ce qu'on pense. Et les personnes qui en ont besoin se retrouvent à devoir dépenser des sommes qui peuvent sembler modiques aux yeux de celles et ceux qui ne sont pas concernés, mais qui, en réalité, s'accumulent. Et de façon générale, au-delà de la précarité menstruelle qui, elle, est un coût émotionnel, financier pour les personnes, c'est aussi l'aspect santé de la chose, que la santé physique, ça empiète sur la santé mentale et réciproquement. Et ça, c'est des choses qui ne sont pas négligeables parce qu'une personne en mauvaise santé ne peut pas étudier de la meilleure des façons parce qu'il n'y a pas d'adaptation de la part de l'institution en face.
Charles, est-ce que l'accès aux soins et à la précarité menstruelle, il y a des structures spécifiques à solliciter ?
Donc nous, on travaille avec une association qui s'appelle Règles élémentaires, avec laquelle on a organisé une collecte nationale l'année dernière pour essayer de proposer des serviettes menstruelles aux étudiantes qui venaient et aux personnes menstruées qui venaient en distribution de commun. Donc il y a des dispositifs qui existent. Aujourd'hui, forcément, le besoin est tel qu'ils sont saturés et pas forcément tous très accessibles en raison de ça. Mais donc il y a des associations qui existent et vers lesquelles on peut se tourner, ouais.
Oriane, on l'a vu, la précarité étudiante, c'est un vaste chantier pour un département comme la Seine-Saint-Denis, un département si jeune. Par quel bout est-ce qu'il faut le prendre, ce problème ? Par où, d'où on part ?
Je pense qu'on faut déjà partir du fait que la jeunesse est une compétence partagée. Vous avez sûrement tous déjà entendu ce terme, une compétence partagée entre toutes les collectivités. Et donc parfois, quand c'est une compétence partagée, parfois tout le monde s'en occupe, parfois personne ne s'en occupe. Et du coup, la jeunesse, on en parle comme si c'était un grand sujet, donc qui englobe plein d'autres micro-sujets à l'intérieur. Et aujourd'hui, il manque un vrai focus, une vraie programmation de l'État sur le temps jeune étudiant. Comment est-ce qu'on fait en sorte que tous les jeunes qui le souhaitent puissent suivre les études qu'ils veulent et puissent survivre correctement pendant leurs études et donc en réalité vivre et à la fois profiter de la vie étudiante, parce que c'est aussi censé, on le dit pas assez, mais c'est aussi censé être un moment sympa, la vie étudiante. Et en fait, on perd de plus en plus ce côté sympa avec toutes les préoccupations que ça engendre. Et donc d'avoir une programmation de l'État pour faire en sorte que tous les jeunes, quelles que soient les universités, puissent faire leurs études, puissent accéder à un logement et puissent avoir aussi accès à une restauration, par exemple, de qualité. Et aujourd'hui, il nous manque ce fil rouge qui soit géré par en haut pour qu'après, nous aussi, collectivités locales, on puisse venir ajouter des spécificités en fonction des jeunes de nos territoires et de là où on décide politiquement de mettre le curseur. Donc nous, le département de la Seine-Saint-Denis, on est en train là de revoir toute notre politique jeunesse et de se, donc en gros 15-25 ans, et de se dire il y a ce temps étudiant qui est particulièrement important et sur lequel il faut qu'on puisse venir en aide aux jeunes, donc en inventant peut-être de nouvelles manières d'habiter, en trouvant de nouveaux dispositifs qui permettent d'accéder au logement, en soutenant des initiatives comme celle de Copain par exemple, celle de Linky aussi, et toutes les associations qui existent sur le territoire. Mais on a besoin de faire en sorte que ce ne soit plus des dispositifs éparpillés auxquels il faut déjà que les jeunes, pour avoir accès, il faut qu'ils en aient connaissance.
C'est ce que j'allais vous demander. Voilà. Il y en a beaucoup qui témoignent en disant que c'est galère à trouver, que voilà, que peut faire le département pour aider?
Et la difficulté qu'on a, nous, aujourd'hui, département, institution, c'est pour parler aux jeunes. C'est tout bête, mais en fait, le département est très actif, par exemple, sur Facebook, sur d'autres types de réseaux sociaux qui sont pas si jeunes. Là, on passe par Jean Massier pour être sur Twitch, pour pouvoir parler à un plus grand nombre de jeunes, parce qu'on ne sait pas toucher les jeunes de cette catégorie d'âge, et donc faire connaître nos dispositifs, c'est quelque chose qui est encore difficile. Donc on réfléchit par exemple, est-ce qu'une application du département pour les jeunes de Seine-Saint-Denis pourrait être un outil pratique, c'est-à-dire je suis jeune en Seine-Saint-Denis, je suis sur cette appli, donc j'ai accès à l'ensemble des dispositifs. Est-ce qu'il faut qu'on continue aussi les partenariats avec des acteurs qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont vraiment utilisés par les jeunes pour les faire connaître? Et il faut aussi qu'on re-questionne ce qu'on est en train de faire, nos dispositifs qui existent, peut-être aussi que s'ils ne sont pas utilisés, c'est qu'ils ne sont pas complètement pertinents et qu'ils doivent être re-questionnés au-delà de la question de l'accès jusqu'à eux.
Les autres, n'hésitez pas à intervenir. N'attendez pas que je vous donne la parole si vous voulez la prendre. Évidemment, quand vous voyez ces dispositifs comme le Secours Populaire, Linky, Copain, est-ce que vous sentez une barrière psychologique ou culturelle des étudiants pour y accéder? Est-ce qu'il y a des jeunes qui n'osent pas se tourner vers Copain, Charles?
Déjà, il y a le phénomène de honte. Forcément, la première fois qu'on va bénéficier de l'aide alimentaire, c'est un moment particulier. Donc nous, à Copain, on essaie de limiter au maximum ce phénomène. Donc on fonctionne par créneau pour éviter les longues files d'attente. On essaie d'en faire des événements conviviaux avec des étudiants qui ont le sourire, de la musique, pour échanger aussi des cafés avec les étudiants pour qu'on puisse discuter de leurs galères quotidiennes. Donc on essaie au maximum de limiter ce phénomène qui peut bloquer les étudiants à demander de l'aide, alors qu'ils en ont complètement le droit. Mais c'est un phénomène qui existe, mais qu'il ne faut pas négliger.
Les autres, vous le constatez aussi?
Alors, je suis effectivement d'accord. Et c'est aussi ce qu'on fait chez Linky. On a une équipe extérieure, ce qu'on appelle l'équipe extérieure, composée de 4 ou 5 personnes. Et cette équipe va sortir. Généralement, on a une longue file de personnes, parfois 400 personnes, 600. On a déjà fait des distributions avec 1000 personnes qui attendaient. Ça reste des chiffres énormes. Et ce qu'on fait, c'est qu'on a l'équipe extérieure qui sort, qui va rigoler avec eux, qui va parler avec eux. Déjà, pour faire passer le temps, parce que quand on attend une heure sous la pluie, parfois sous la neige en hiver, ou sous la canicule quand il fait très chaud en été, en fait, on va leur redonner le sourire, on discute avec eux. On leur fait aussi part des dispositifs qui peuvent exister et qu'ils ne connaissent pas, notamment par exemple par rapport à la santé, qui peuvent distribuer de l'aide hygiénique, ou par rapport à différents types d'aides selon leurs problématiques. Et puis effectivement, toujours les rassurer sur le fait que demander de l'aide, c'est OK. Pour faire un parallèle à ce qu'on disait tout à l'heure, enfin ce que vous disiez sur le plateau précédent de la santé mentale, je pense qu'on ne devrait pas avoir honte de dire qu'on ne va pas bien.
Est-ce que vous bossez avec d'autres associations, Linky ?
Oui, je suis bénévole chez plusieurs assos, ouais, dont, okay. Alors pour le coup, coupe un nom, mais j'y réfléchis.
Continuez à y réfléchir. Les autres sur la honte, Yasmina.
Moi, je pense, au-delà de la honte, il y a un peu cette idée logique où on va se tourner vers d'abord les aides auxquelles on a droit quand on les connaît seulement. Et du coup, cette idée de d'abord une méconnaissance, où bah, du coup, si on ne sait pas, bah, comment faire la démarche. Et quand on connaît, bah, un peu ce sentiment d'illégitimité qui peut venir en se disant, bah, en vrai, ça va, moi j'ai mangé, peut-être que je peux faire sans, peut-être que si je saute un repas, c'est pas, enfin, il y a des gens qui ne mangent pas du tout. Enfin, un peu se dire qu'on n'est pas les premiers sur la liste d'attente de ceux qui ont, ou celles qui ont le plus besoin. Et ça, c'est un chemin de pensée que chacun, chacune a, mais qui au final est très commun à beaucoup d'étudiants et étudiantes. Et c'est un peu dur de se dire que bah, c'est moi le premier ou la première de cette liste d'attente et c'est moi qui ai le plus besoin parce qu'au final, des fois, beaucoup d'étudiants et étudiants sont dans des process de transfuge de classe. Et du coup, bah, j'ai vécu bien pire en étant plus jeune et bah, je tends vers mieux. Là, c'est juste la période de passation, c'est un peu compliqué, mais là, ça va. C'est une période un peu sacrificielle que d'être étudiant. D'une certaine façon, quand on voit des personnes de notre âge travailler et être plus confortable, on peut avoir ce chemin de pensée-là et de se dire... Je me serre la ceinture, j'ai mal, ça va passer, et après, ça ira mieux.
Si vous pouviez proposer une mesure concrète pour améliorer la solidarité à Paris 8, ou plus largement, ce serait quoi ?
Pour ma part, je dirais pérenniser les repas à 1 euro, parce que j'ai réellement vu autour de moi des étudiants qui m'ont dit que les repas à 1 euro les sauvaient, et c'est ce qui leur permettait de pouvoir manger aujourd'hui. Pour 1 euro... Ça peut être compliqué aujourd'hui de se nourrir autrement si on va acheter des repas à l'extérieur. Donc déjà pérenniser ça sur tous les campus, en sachant qu'il y a des campus qui n'ont pas de crousse, donc pour diverses raisons, hein, des campus qui sont par exemple en travaux ou autres. Je dirais aussi une mise en lien entre les recruteurs et les étudiants, puisqu'on sait aussi qu'il y a des étudiants qui cherchent du travail. Pourquoi pas prendre un temps, par exemple, même en distanciel et même sur un timing de 30 minutes, des recruteurs qui, par exemple, parleraient à des étudiants, regarderaient leur CV et leur diraient ouvertement « Voilà pourquoi je t'aurais pas accepté si t'étais venu et qu'est-ce qui va pas sur ton CV ?»
Faire des testings.
Ouais, voilà.
Ok, intéressant. Charles, t'en penses quoi ?
Je pense que le fonctionnement du Crous aujourd'hui, il est super important pour les étudiants. Le repas à 1 euro, c'est une super mesure. Elle est passée à l'Assemblée l'année dernière, mais elle n'est pas encore passée au Sénat, donc on attend qu'elle soit toujours appliquée pour tous les étudiants. Donc ça permettrait d'avoir une alimentation pas chère pour tous les étudiants et même au-delà de ça, augmenter le budget du Crous parce que si le Crous fonctionne à budget constant mais avec des repas à 1 euro, bah, ils vont diminuer les portions, ils vont faire des plats de moins bonne qualité. Donc financer le Crous aujourd'hui, c'est une urgence pour rénover les résidences étudiantes, permettre de financer les repas et financer les bourses aussi.
Oriane, t'en penses quoi ?
Je rejoins complètement ce qui a été dit là, et notamment j'aurais insisté sur le fait que Fatia Kelouachi, qui est la députée qui a fait voter cette loi sur le repas à 1 euro, ça a été un gros combat à l'Assemblée, preuve que la précarité des étudiants n'est pas encore un sujet qui est une préoccupation pour tous les élus et qu'il faut continuer aussi à se mobiliser sur ce sujet pour que ça passe au Sénat et que ce soit généralisé. Et en complément de ce que vous disiez, je sais que Paris 8 a un projet d'épicerie sociale et solidaire qui devrait ouvrir. Ça fait partie des dispositifs qui fonctionnent bien là où ça existe. L'IUT qui est place du 8 mai 45 à Saint-Denis, par exemple, a créé l'année dernière son épicerie, qui a un modèle assez intéressant parce que ça permet aux étudiants d'acheter des produits de qualité à un prix très bas et de créer de l'emploi parce qu'il y a également des étudiants qui tiennent l'épicerie et donc qui ont un job qui est compatible avec leurs études puisque l'université a bien conscience des contraintes qu'il y a autour. Donc, je pense que ça fait partie des dispositifs qu'on déploie de plus en plus dans les villes et qui fonctionnent bien et qui ont toute leur pertinence au sein des universités et que petit à petit, je pense que les facs vont s'en saisir.
J'ai une dernière question pour vous. J'imagine que sur le stream, il y a des gens qui nous regardent et qui sont concernés par la précarité étudiante. Est-ce que vous avez un mot à leur adresser ? Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui est concerné ou quelqu'un qui s'apprête à rentrer dans la vie étudiante ? Charles ?
Moi, je dirais qu'il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Il y a plein d'associations aujourd'hui qui proposent de l'aide à tous les étudiants. Donc, il faut oser faire le premier pas, même si ce n'est pas facile. Et ça permet de faire des belles rencontres, soit en s'engageant, soit en étant bénéficiaire des aides, de se sentir moins seul, de partager ses galères avec d'autres. Et ça permet d'améliorer un peu son quotidien.
Erin ?
Économiser depuis la naissance, les gars. Trouver vos alternances des petits. Mais je dirais plus sérieusement, je dirais effectivement, n'hésitez pas à en parler, communiquez autour de vous, c'est important. Je pense que quand on est dans ce type de galère, il y a une certaine honte, je rejoins beaucoup ce qui a été dit. Et ça, je l'ai beaucoup vu autour de moi, hein. Plusieurs étudiants qui ont galéré, qui ont vraiment, qui m'ont dit, en fait, pendant X temps, j'ai pas réussi à demander de l'aide et il a fallu que ce soit une pote, en fait, qui me force à venir prendre un panier étudiant parce que de moi-même, je l'aurais pas fait. Et ça, je pense que c'est important.
Par rapport à la question, déjà, n'hésitez pas à faire des études, enfin à passer la porte des études supérieures et notamment des facs, parce que on a de la chance, par exemple, d'avoir une fac comme Paris 8 sur le territoire. Moi, je suis une ancienne de Paris 8 aussi, et c'est vraiment une super fac qui amène à faire tout et n'importe quoi. Vous voyez, aujourd'hui, je suis élue locale après être passée ici, et c'est important vraiment d'avoir ce temps d'études, ce temps de transition, et effectivement de mettre en place et de demander les aides auxquelles on a droit dès le début. Tout à l'heure, on parlait des assos caritatives un peu historiques. Et de nouvelles assos qui se sont créées. Et quand je dis de demander de l'aide, aussi de faire confiance aux pairs autour. Moi, j'ai été frappée pendant la période Covid de voir combien les modèles institutionnels et des assos caritatives existantes ne collaient pas, en fait, aux nouveaux jeunes. Tout à l'heure, Irine, vous disiez, les jeunes, ils changent. Et les jeunes, en fait, ils ont créé des assos, les vôtres notamment, ces dernières années, qui marchent hyper bien et, en fait, qui ont un fonctionnement peut-être plus souple, plus efficace, plus direct avec les jeunes. Et donc, se tourner vers ce type de structure et en parler avec les amis autour aussi, ça permet d'accéder à ce genre de dispositif.
Yasmina ?
Moi, je pense que ce serait qu'on est tout à fait légitime, pardon, à demander ces aides-là. On prend la place de personne, tant dans nos études que dans les demandes d'aide, que ce soit des demandes d'aide officielles auprès d'institutions, que des demandes d'aide auprès d'associations qui viennent combler les lacunes du service public. Et je pense qu'on est tout à fait légitime dans tout ce qu'on entreprend, qu'on est tout à fait capable d'aller au bout et qu'il n'y a pas de mal à demander de l'aide à des béquilles sur le chemin pour aller plus loin.
Merci beaucoup, chers invités, d'être venus participer à ce moment d'échange. Je vous rappelle que cette émission était en partenariat avec le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis dans le cadre de sa concertation jeunesse. Si vous êtes jeune et en Seine-Saint-Denis, n'hésitez pas à vous rendre sur le site. C'est quoi, Oriane, le site ?
Seine-Saint-Denis.fr,
tout simplement. Vous trouverez tous les liens vers cette concertation jeunesse. Ça vous concerne et le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis, ça les intéresse que vous leur disiez ce que vous avez à leur dire. Merci beaucoup à l'Université Paris 8 qui nous a accueillis. Merci beaucoup à la régie et merci beaucoup au public. Bonne fin de journée. Au revoir tout le monde.